Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
J'aimerais ça revenir sur la question que tu m'as demandé plus tôt, tu sais, quand je fais une course, est-ce que je me compte, est-ce que je la fais pour moi-même ou pour d'autres? Puis je pense que, tu sais, quand t'es nouvelle dans le sport, puis justement, l'année 2017, j'étais assez nouvelle, tu sais, puis je me suis alignée, tu sais, je me rappellerai toujours à Quadwalk, je me suis alignée contre des gens, tu sais, Casey, Claire, Anna May, c'était 3 personnes qui avaient gagné des grosses courses dans le monde de l'ultra, puis qui étaient très reconnues. Et puis moi, quand je me suis alignée sur la ligne de départ, c'est sûr que j'en étais consciente. Que tu sais, je m'alignais contre des gens qui avaient un très bon résumé de course, mais c'est très important pour moi de juste faire ma course. Et puis c'est vraiment ce qui est arrivé, tu sais, je suis arrivée, j'ai fait ma course, je me suis pas vraiment préoccupée de ce que les autres faisaient, et puis ça a fait en sorte que j'ai lidé, tu sais, pratiquement toute la course. Et puis je pense que c'est ce qui est le plus important pour les gens, c'est de savoir que c'est pas parce que d'autres personnes ont fait d'autres choses dans le passé que toi tu peux pas faire quelque chose d'impressionnant dans le futur. Fait que c'est sûr que ce genre de performance-là, tu sais, est venu solidifier un peu la confiance en moi. Mais moi, ce que je voudrais dire à les gens qui nous écoutent, c'est surtout que ça prend juste une bonne performance pour que tu fasses partie des meilleurs. Puis je pense que c'est ce que j'aimerais dire à ce sujet-là. C'est sûr que ça a été surprenant pour moi un peu. Mais d'un autre côté, tant et aussi longtemps que je faisais ma course, tu sais, au meilleur de mes habiletés, j'allais pas être déçue. Donc, tu sais, une première place aux courses que tu as mentionnées, ça se prend bien. Mais c'est quelque chose que tu sais, si tu suis tes propres habiletés, tu devrais pas être surprise de ça.
Tu n'as pas d'entraîneur autour de toi? Est-ce que c'est un choix délibéré? J'imagine que oui. Qu'est-ce qui guide ce choix? C'est parce que tu considères que tu es suffisamment autonome et que tu te connais suffisamment bien pour être en capacité de t'entraîner? Est-ce que c'est pour tenir à distance une espèce de forme quelconque de pression extérieure? Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là?
Ouais, ben je te dirais que le choix premier, c'est que moi, je fais l'ultra principalement pour le plaisir, puis je fais les ultras principalement pour le plaisir, puis c'est ce que je veux garder. Je veux être capable de dire oui aux plans qui me sont lancés. Tu sais, je veux être capable, si je reçois un texte un soir, de dire « OK, oui, je suis là demain matin, pas de problème ». Même si c'est pas la meilleure chose spécifique pour mon training. Je pense que dans un certain sens, c'est ce qui fait en sorte que quand je suis en train de courir un ultra puis que je trouve ça difficile, ben c'est très facile pour moi de juste me retourner de bord puis dire non, mais je suis ici pour le plaisir, puis je continue à pousser puis advienne que pourra. Donc ça, c'est certain que c'est la première chose. Mais en deuxième lieu, c'est sûr que ça faisait, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'entraînement structuré, là, depuis que j'ai comme 8-9 ans. Donc je pense que la dynamique est différente que quelqu'un qui se rentre qui commence en ultra puis qu'il n'a pas suivi un certaine planification d'entraînement. Donc, c'est sûr que j'ai le bagage sportif en tant que j'accumule avec moi, à savoir comment bâtir un plan d'entraînement, qu'est-ce qu'il faut suivre. Aussi, j'ai le bagage de mes expériences personnelles. J'ai eu beaucoup de blessures là, en 2017 jusqu'en 2022. Donc, je suis la meilleure personne pour savoir où est ma limite. Puis, je commence à savoir quand est-ce que je dépasse la borne puis qu'il faut que je fasse certaines choses différemment. C'est sûr aussi que je suis entraîneur avec le coaching du coureur, donc j'ai beaucoup d'outils à ma disposition là, pour jouer avec ça. Puis, j'aime aussi m'entourer de gens qui ne sont pas nécessairement mes entraîneurs, mais avec qui je peux discuter de différentes choses que je fais dans mon entraînement. Puis c'est plus une discussion générale que un coach qui me donne quelque chose à faire puis que je dois faire par obligation, que c'est sur mon plan d'entraînement.
Tu l'as évoqué tout à l'heure, les blessures ont fait partie de ta vie à plusieurs reprises. Il y en a une qui a été particulièrement marquante, qui a été la jambe que tu t'es cassée en fait avec une double fracture spirale du tibia péroné qui t'a tenu longuement et longtemps éloigné des sentiers.
Ouais.
Ces blessures, elles sont d'origine accidentelle ou est-ce que c'est lié à une éventuelle surcharge, des fragilités qui sont liées à ta physiologie? Est-ce qu'une première blessure, on a appelé forcément d'autres en guise de compensation? Comment est-ce que tout ça s'est enchaîné à tes dépens?
L'élément déclencheur, ce fut vraiment la fracture spirale. Je pense que par la suite, il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses qui se sont pointées, comme j'ai mentionné. C'est dur à dire si la fracture spirale... c'est assez clair pour moi que la fracture spirale est arrivée par malchance, mais la malchance aurait pu être causée par différentes choses que j'ai faites qui auraient pu être évitées. Donc, c'est sûr que avant la journée que je me suis cassé la jambe, je courais un 50 km. Et puis la semaine avant, elle avait été super chargée en entraînement. J'étais déjà fatiguée quand je suis partie. Je suis partie, puis pendant 10 minutes, ma cheville, elle n'arrêtait pas de tourner parce que j'avais les jambes fatiguées, je portais des souliers trop petits. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ma jambe, elle a tourné, elle est restée prise, puis ça a fait casser ma jambe, l'impact. Donc, c'est sûr que ça, c'est de la malchance. Mais il y a beaucoup de décisions qui ont fait en sorte que probablement que ça aurait pu être évité. Et puis, c'est une expérience que j'utilise pour essayer de prendre les meilleures décisions dans le futur. Parce qu'être spontané puis dire oui à différentes choses, c'est très positif, mais ça peut être aussi négatif. Puis, j'utilise ma blessure à la jambe pour me rappeler que c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment également.
Tu as été quoi comme type de personne face à ces blessures qui étaient une découverte pour toi? Comment est-ce que tu as géré psychologiquement tout ça? Est-ce que ça a été une épreuve vraiment éprouvante? Je sais qu'elle a été plus longue que ce que tu imaginais. En tout cas, tu pensais être vite sur pied à nouveau. Ça n'a pas vraiment été le cas. Donc ça, j'imagine que ça a été une surprise vraiment très défavorable. Mais de manière générale, est-ce que tu t'es une battante et puis tu te projettes sur le « ça ira mieux plus tard » ou est-ce qu'il y a quand même un temps d'acceptation qui n'est pas simple pour toi à vivre?
Mais il y a eu un temps d'acceptation, mais je te dirais que j'essaie toujours de vivre le temps d'acceptation le plus rapidement possible tout en respectant l'émotion que tu vis. C'est sûr que, ce qui arrivait, c'est que juste avant, c'est arrivé peut-être 2 semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en 2018. C'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais aller compléter. Mais j'avais vraiment un gros été devant moi là, après ça. Je m'en allais en Inde faire une course. Fait que c'est sûr que accepter tout ça, ça a été très difficile parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'ai été capable de vraiment rester positive. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je m'en suis sortie là, par la fin. Et puis, j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses. Donc, c'est sûr qu'une fois que la blessure est arrivée, puis j'ai compris que j'allais être en béquille pendant 2 mois. Le monde de la course à pied devait être oublié pendant au moins 6 mois. J'ai focusé mon attention ailleurs. Puis, c'est là que je trouve qu'avoir une certaine balance dans ta vie, un certain équilibre, c'est super important. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail, j'ai focusé beaucoup sur mes relations, la famille, les amis, des choses comme ça. Et puis, par le fait même, par la suite est arrivée mon aventure avec Jessica là, en tant que guide paralympique. Puis, je pense que à la fin du compte, je suis reconnaissante que j'ai pu enrober ma vie d'autre chose que juste la course à pied parce que c'est certain que si je m'étais pas cassé la jambe, probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied ou mentalement seulement dans la course à pied. Et puis, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des dernières années parce que ça m'a quand même pris 4 ans là, revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a pris autant de temps.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.